Nous allons faire deux lectures dans le livre des Deutéronomes, avec deux versets. Le premier verset se trouve dans le chapitre 30, et c'est surtout le verset 19 qui va nous intéresser. On va lire, on étudiera après de 15 à 20, mais pour l'instant ce sera le verset 19, chapitre 30, Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et dans Deutéronome chapitre 11, les versets 26 à 28. Deutéronome 11, 26-28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Deux versets qui nous parlent d'un choix à faire. On peut choisir la vie ou la mort, on peut choisir la bénédiction ou la malédiction. Et c'est vrai que la vie est faite de choix. Alors là, nous sommes dans une lecture du temps de Moïse, c'est-à-dire bien longtemps après la création. Mais dès la création, quand on lit la Genèse, on voit que Dieu a placé un choix devant l'homme. Dieu a tout créé, tout appartient à Dieu, et il a placé l'homme au milieu de cette création en lui disant « Tu vas en être le gestionnaire ». Tu vas choisir de cultiver, tu vas choisir de protéger et de garder ce terrain que je te donne. Et en plein milieu, il y a un arbre qui s'appelle le bien de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme, celui-là, tu n'y touches pas. C'est un choix. Il a laissé l'homme de choisir ou de ne pas choisir. Ça aurait été très simple de pas du tout mettre l'arbre. Mais Dieu a voulu laisser le choix. Et notre vie est totalement faite de choix. Quoi que l'on fasse, dès qu'on se lève le matin, de toute façon, on fait un choix. Alors, on va revenir sur nos deux textes. Le premier, c'est Deutéronome 30, le verset 19. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Là, c'est vrai que ça s'adresse au peuple d'Israël, bien sûr, mais ça peut aussi s'adresser à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui n'ont pas rencontré Jésus comme médiateur pour aller vers Dieu. Et à tout cela, Dieu dit, choisis la vie et non la mort. Choisis d'aller là où je suis. Matthieu, chapitre 7, verset 13, nous parle de deux chemins. Il y a un chemin très spacieux, très agréable à prendre, pavé d'un beau tapis rouge avec plein de lumière. Il y a un beau chemin qui est emprunté par une multitude et qui finit à la perdition. À la maison, nous avons un tableau comme ça, où ça a marqué les deux chemins. Et où on prend ce chemin spacieux, qu'est-ce que c'est beau ? Il y a la fête, il y a la joie, on mange, on boit, on danse. Puis plus on avance dans ce chemin spacieux, c'est marron, tout en haut, il y a un feu, une grande flamme. Et une fois qu'on a franchi ce niveau de la flamme, on ne peut plus faire marche arrière. Et puis sur la même affiche, il y a un tout petit banc avec une toute petite porte. Puis il faut ouvrir, faut déjà ouvrir la porte, toute petite. Alors pour les trop grands, il faut se baisser. Et puis, oh le chemin, qu'est-ce qu'il est pas beau. Il y a des ronces, il y a des cailloux, il faut monter, il faut descendre, il faut tourner à droite. Il n'y a rien qui pousse. Mais en haut, il y a un magnifique soleil. Il y a une magnifique lumière. Et Dieu, ce matin, nous demande de choisir entre le chemin spacieux ou la toute petite porte étroite. Mais ça, il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin avec lui. Et si on approfondit un petit peu le chapitre 30 du Deutéronome, il y a justement ce choix qui est là, que je viens d'expliquer. C'est un chemin qui mène à la vie. Il nous est juste donné une indication. Observe mes commandements. Observe mes lois et tu pourras vivre. Ça, c'est, on voit ça au verset 16. Verset 17, il nous est dit, si ton cœur se détourne des choses de Dieu. Et là, on voit bien que ce choix de la vie ou de la mort, c'est si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas. C'est un choix qui vient de l'intérieur, ça. C'est le choix du cœur, c'est le choix qui est au plus profond de mes tripes et qui dit, ah ouais, c'est peut-être pas mal finalement. Je vais choisir. Et il nous est dit au verset 18 que celui qui accepte d'obéir, de faire le bon choix, ses jours ne seront pas retranchés, mais au contraire, ils seront prolongés. Non pas qu'on va vivre d'une façon éternelle, physiquement, mais spirituellement. Nos jours seront prolongés. Notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Je mets devant toi un chemin. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et ce matin, dans Apocalypse 3, Dieu nous dit, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui choisit d'ouvrir cette porte, j'entrerai dans sa demeure et avec lui, je souperai. Voilà ce qu'il en est pour le premier choix lorsqu'on n'est pas en règle avec Dieu, lorsqu'on ne connaît pas encore tout à fait Dieu, mais qu'on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui existe. Et ce matin, Dieu nous dit, voilà, par Jésus-Christ, tu peux choisir la vie. Par Jésus-Christ, tu peux choisir le bon médiateur qui va te mener à Dieu le Père. Ça, c'est le choix qui est proposé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a cette deuxième lecture, chapitre 11, où là, c'est un choix qui s'adresse plus particulièrement au peuple d'Israël. Je mets devant toi la bénédiction, je mets devant toi la malédiction. Tu choisis. Et il nous est dit, si pour ceux qui auraient le temps d'aller un petit peu fouiller dans le chapitre 27-28 de Deutéronome, il y a toute une liste qui est donnée. Tu seras béni si tu fais ça, 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 ça. Il y a toute une page, deux, trois pages, le chapitre complet en fait. Et puis la deuxième partie, c'est si tu n'obéis pas à mes commandements, tu risques ceci. La malédiction va arriver et tu risques ceci, ceci, cela. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas confrontés à des choix justement dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choix dans ma vie qui vont influencer mon lendemain vers la bénédiction ou au contraire vers la malédiction? Quel est le choix que je vais faire? Qu'est-ce que je vais influencer dans ma vie pour demain en fonction de mon choix? Comment je vais influencer ma vie de demain en fonction de ce que je vais choisir? Il y a plusieurs façons de choisir. Il y a plusieurs sortes de choix. Il y a des choix tout à fait anodins. Ce matin, j'ai décidé de mettre une cravate. C'est un choix qui n'incombe que ma personne. Ça n'aura aucune influence sur ma vie de demain, ni sur celle d'aujourd'hui d'ailleurs. J'aurais pu mettre une chaussure noire et une chaussure blanche. À la limite, vous auriez rigolé, mais ça n'aurait pas influencé ma vie pour demain. Au mieux, ça aurait peut-être fait un film, Le Grand Chauve à la chaussure noire. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça. Hein? Mais voilà, il y a des choix qui n'influencent pas, qui n'ont aucune conséquence sur ma vie pour demain. Que je mette une veste noire, beige ou blanche, c'est mon choix personnel. Ça ne va pas changer ma vie pour demain. Par contre, il y a des choix qui peuvent avoir une influence. Si on peut avoir les versets sur la Genèse, s'il te plaît. D'une façon sociologique, il y a trois choix très importants que l'on fait dans notre vie qui vont avoir ou non de bonnes conséquences ou des mauvaises conséquences. Et ces trois choix, indirectement, on les retrouve dans la Genèse. Alors j'ai demandé à la technique de faire que trois versets, sinon il aurait fallu lire Genèse 2, 15 jusqu'à Genèse 3, 8. Ça aurait été un peu long. Mais j'ai simplement fait ressortir trois versets qui, à mon sens, reflètent un petit peu ce qui va influencer ma vie. Les trois choses qui, d'une façon sociétale, sociologique, etc., peuvent transformer notre vie. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Le choix de ma vie professionnelle va avoir un impact considérable sur demain, automatiquement. La façon dont je vais travailler va avoir un impact sur mon quotidien et sur les gens qui m'entourent. Alors, faut pas non plus dire que le travail, c'est la punition de Dieu parce que l'homme a chuté. C'est vrai que c'est marqué dans la Bible, maintenant que tu as chuté, puisque tu as désobéi, tu cultiveras la terre, la sueur de ton front et tu gagneras ton pain en te fatiguant. Ça, c'est une conséquence du péché. Mais à la base, le travail, c'est une bénédiction. À la base, le travail, c'est le choix que Dieu nous donne à chacun de nous. Nous sommes là pour travailler. Et la façon dont je vais gérer ma vie professionnelle aura un impact sur demain et sur tous ceux qui m'entourent. Je travaille pour vivre. Je vais le matin, je vais travailler, mais c'est pour vivre, pour pouvoir payer mon loyer, ma maison, ma nourriture, mes vêtements, pour voir aux besoins de ma famille. Par contre, il y en a qui vivent pour travailler, qui sont des mordus du travail, qui sont des drogués du travail. Le président associatif avec lequel je travaillais il y a quelques années était un drogué du travail. Il commençait à 7h du matin, il finissait à 11h du soir. Du lundi au samedi. Parce que madame voulait quand même qu'il reste le samedi. Il y a donc le samedi, il travaillait mais à moitié. Mais c'était un mordu du travail, c'était un drogué, mais ça a une influence sur la vie. Ça a une influence sur notre propre corps, parce qu'on finit par être fatigué. Parce que indirectement, j'ai fini par prendre son rythme. Mais ça a des conséquences sur une vie. Parce qu'on ne peut plus se poser, parce qu'on ne voit plus les proches. Donc la façon dont je travaille va influencer ma vie pour demain. On voit Paul, il nous est présenté comme quelqu'un qui travaillait. On le voit dans Actes 18, il travaillait, il avait son travail, il faisait des tentes. Voilà, il travaillait d'une façon normale. En l'occurrence, dans Genèse 2,15, je ne sais pas si l'homme, Adam, a fait tout son potentiel sérieusement pour le travail. 1 Thessaloniciens 4,11 nous dit « Mettez votre honneur à vivre tranquille en vous occupant de vos propres affaires et à travailler de votre propre main, comme nous vous l'avons enseigné. Et la Bible nous dit que quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Adam avait une tâche qui était de garder le terrain. C'est bizarre, mais à mon avis, il a failli quelque part là. Parce que s'il avait vraiment gardé le terrain, il l'a cultivé, il l'a entretenu, mais est-ce qu'il l'a vraiment gardé? Je ne sais pas. Parce que s'il l'avait vraiment gardé, je pense qu'un certain serpent ne serait pas venu. Et le fait de ne pas avoir gardé le terrain correctement a eu une influence sur sa vie. Je ne sais pas à quoi ressemblait le serpent quand il est venu. Mais en tout cas, après la chute de l'homme, il nous est dit que Dieu le condamna à ramper par terre. Alors, quelle forme il avait avant d'influencer Adam et Ève, je ne sais pas. En tout cas, si Adam avait bien gardé le terrain, s'il avait mis tout son cœur pour travailler à la gloire de l'Éternel, il n'y aurait peut-être pas eu la conséquence du péché. Ça, c'est la première étape. J'en arrive au serpent. La deuxième action qui va influencer, le deuxième choix qui influence fortement nos vies, c'est les gens que nous fréquentons. Là, ça a une influence énorme. Alors, je ne sais pas au bout de combien de temps le serpent a commencé à discuter avec Adam et Ève, mais en tout cas, pour en arriver à ça, je pense qu'il a pris du temps. Il n'est pas arrivé d'un seul coup en disant « Surtout, vous mangez du fruit !» Il a laissé les relations se faire, il a... Combien de temps, j'en sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une relation intime qui a été créée entre Adam et Ève et ce serpent, pour pouvoir en arriver à discuter ainsi. Les gens qui m'entourent ont de l'influence sur ma vie. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 22, versets 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour toi. 1 Corinthiens, verset 33 du chapitre 15. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Là, on nous parle de l'amitié que je dois avoir. On nous parle du choix que je fais dans mes relations amicales, dans mes relations professionnelles, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi dans le choix que je fais de mon conjoint. Si je me mets sous un joug étranger en choisissant un conjoint qui n'est pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu, il y aura des conséquences sur ma vie. Donc là, je ne juge personne, je ne vise personne non plus. Mais un jeune homme d'une vingtaine d'années converti, qui fréquente quelqu'un du monde, ça peut être un amour sincère, il n'y a pas de problème. Mais il y aura peut-être des conséquences. Il y aura tôt ou tard des compromis à faire. Parce que le conjoint qui ne veut pas entendre parler de Dieu, le dimanche matin, ça va être difficile, il va falloir faire des compromis. Un coup tu y vas, puis un coup tu restes avec moi quand même. Ou alors tu n'y vas pas du tout. Il y aura des compromis à faire, automatiquement. Puis il y aura aussi des compromis dans l'éducation de nos enfants. Parce que Ben, les enfants, ils sont aimés des deux parents et les deux parents vont donner une vision pour la vie de l'enfant, une vision spirituelle, une vision du monde. Donc faisons attention à qui nous côtoyons. Faisons attention à quelle personne nous mettons dans notre entourage, plus ou moins proche. Et tout ça, ce sont des choix qui ont des conséquences sur notre vie. Et le troisième choix au niveau sociétal, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel. Où est-ce que je demeure ? Mon lieu d'habitation, mine de rien, c'est influence ma vie. Je parle en étant chrétien, bien évidemment. En étant fils de Dieu. J'ai connu une période sans emploi. Et avec Michel, à chaque fois qu'une offre d'emploi m'intéressait, la première chose qu'on regardait, est-ce qu'il y a une église ADD à côté ? ADD parce qu'à l'époque, on était dans les ADD. Et s'il n'y avait pas d'église, je postulais même pas. Parce que j'avais pas envie de faire 50 ou 100 kilomètres. Nous n'avions pas envie de faire 50 ou 100 kilomètres pour aller à une église. Le choix de ma demeure est important. Est-ce que je vais habiter loin de la face de l'Éternel? Ou est-ce que j'essaye d'habiter dans un lieu où je pourrais me ressourcer spirituellement, où je pourrais me faire du bien dans la présence de Dieu? Ou est-ce que je fais une vie qui n'est pas trop en règle avec Dieu et du coup je préfère aller me cacher dans un petit coin? Trois choses qui influencent ma vie spirituelle. Trois choix. Le choix du travail, ou plus exactement comment je vais travailler. Le choix de mes amis et le choix d'où je vais habiter. C'est quelque chose d'assez concret. Et tous, on peut l'expérimenter. Parce qu'il y a des conséquences. Et lorsque l'on fait un choix, bizarrement, il y a les circonstances de la vie qui se mettent en place. Et on peut faire des choses. Ma sœur est allée travailler en Haute-Savoie. Elle avait une vingtaine d'années à l'époque. C'était son choix. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'elle a rencontré son conjoint là-bas. Bon, ça fait 35 ou 40 ans qu'ils sont mariés, c'est pas le problème. Ils sont pas du tout convertis, ni l'un comme l'autre. Mais je veux dire simplement que lorsque je fais un choix, les circonstances de la vie se mettent en place, et puis les choses aboutissent d'une façon correcte ou pas. Parfois, on fait un mauvais choix. Je voudrais qu'on réalise quelque chose. Quand je fais un choix difficile, sur les trois qui sont cités là, ça impacte ma vie. Est-ce que je réalise parfois que ça peut impacter tous ceux qui m'entourent? Ça aussi, c'est un drôlement important. Je reviens à ce jeune garçon là de 20 ans qui convertit mais qui n'a pas du tout envie, qui est tombé amoureux d'une jeune femme non convertie. Mais pour les parents, c'est aussi compliqué, parce que ça veut dire que quand la belle-fille ou le beau-fils ils viennent à la maison, ça limite drôlement les conversations. Quand les petits-enfants ils viennent à la maison, même si on peut se permettre d'évangéliser et de parler de Dieu aux enfants, ça a un impact sur notre vie. Alors comment je m'en sors, moi, quand le choix d'un proche influence ma vie? Est-ce que il va y avoir des conséquences sur ma vie? Ou est-ce que c'est simplement une influence qui est là, mais sans grandes conséquences? C'est important d'y réfléchir. Alors pour ceux qui sont dans une situation où le choix de leurs proches les perturbe, les trouble un petit peu, nous avons vécu il y a quelques semaines quelque chose d'assez fort. Vous le savez tous, notre fils a fait le choix d'être militaire. Il s'est retrouvé à 1000 km d'ici, à Fréjus. Alors, c'est pas le thème de mon prédication. Ça n'a pas marché comme il le voulait, mais c'est pas très grave. Ça n'empêche que... Papa, ça va pas? Est-ce que tu peux venir me chercher? Parce que là, ça... Oui, je viens. Sauf que pour se déplacer à 1 000 km, c'est pas comme si vous vous déplacez à 50. Mais qu'importe, je me suis déplacé, je suis allé le chercher. Il a fait un deuxième choix qui est d'arrêter l'armée, mais c'est son choix. Alors je suis allé le chercher en train. J'ai pris le train de Paris de nuit et je suis arrivé à Marseille, je sais pas, il était 6h30, 7h. Et de Marseille à Fréjus, ben, j'ai vu la beauté du paysage. C'est beau d'ailleurs, avec le soleil levant, tout ça. Donc pendant 2 heures, j'ai vu un magnifique paysage. Je récupère notre fils, on prend les billets pour le lendemain parce que je ne savais pas vraiment à quelle heure il devait repartir. On prend les billets et manque de bol pour moi, j'ai une place mais à contresens. C'est très désagréable. Je sais pas pour vous, mais enfin moi, j'aime pas rouler à être assis dans un transport en commun à contresens, ça me gêne. Donc du coup, ben, on a pris le train le lendemain, Fréjus, Marseille. Et j'ai vu le même paysage que la veille, mais en sens contraire. Oui, on en rigole, mais n'empêche que j'ai pleuré pendant 2 heures. Et j'ai pas compris pourquoi. Et arrivé à Marseille, il y a cette voix de Dieu qui m'a dit, c'est fini. Tu vois, j'ai rembobiné le fil là. Tu es parti de tel endroit, tu as vu des magnifiques choses, tu repars de sens inverse, je rembobine et il n'y aura pas de conséquences pour toi. Parce qu'évidemment, je pleurais en me disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Qu'est-ce que ça va être les conséquences de son choix? Mais Dieu m'a fait comprendre que voilà, c'est son choix. Il n'y a pas de conséquences pour toi, pas de conséquences pour moi. Mais c'était impressionnant ce rembobinage de film comme ça. Et on repart à zéro. Ouf. J'ai repris le train à Marseille. Bizarrement, il s'est remis dans le sens de la bonne marche. Et on a continué notre chemin jusqu'à Nantes, quoi, par le train. Alors pour ceux qui s'inquiètent sur les conséquences du choix de nos proches, eh bien, je vous dis ce matin qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que c'est le choix de celui qui nous est proche. Ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas ton choix. Et donc, il n'y aura pas de conséquences. Bien sûr, ça peut influencer ta tristesse, ta joie. Mais il n'y aura pas de conséquences. Le choix des autres, le choix de ceux que nous aimons, n'a pas de conséquences sur notre vie propre. Et ça, je l'ai vraiment vécu. J'ai vraiment compris ce que Dieu voulait dire. C'est drôlement important. Alors avec tout ça, il y a peut-être des questions qu'il faut se poser quand je fais un choix. Puisque chaque choix qui sont dans ces ordres-là, qu'importe les trois cumulés ou pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour éviter que mon choix porte des conséquences bonnes ou mauvaises sur ma vie. Il y a peut-être des questions à se poser. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. C'est peut-être intéressant quand je commence à faire un choix de se dire, tiens, je m'assois, on s'assoit, et puis on dresse le bilan. On va Deutéronome 28. Donc si je t'obéis, Seigneur, j'ai ça comme bénédiction, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Si je t'obéis pas, ah, va peut-être avoir ça comme conséquence. C'est important de poser le fondement. Quand on achète une maison, c'est peut-être important de s'asseoir avant, de contacter le banquier et de dire, Est-ce que financièrement je peux? Est-ce que ça et ça c'est possible? C'est important de s'asseoir. Alors je ne sais pas si vous le faites, mais nous, à chaque fois qu'on a pris une décision, parce qu'on a été amené à déménager pas mal de fois dans notre vie, et à chaque fois qu'on a pris une décision, on a pris un papier, le bon avantage, les inconvénients, et on dresse tout ce qui est bon, tout ce qui est profitable, et on dresse tout ce qui pourrait être négatif. Et à chaque fois, s'il y avait trop de négatifs, on s'est dit non, on va peut-être pas le faire. Par contre, quand c'était du positif, là, ça devenait intéressant. C'est important de savoir, de calculer, de s'asseoir et se dire, est-ce que je peux ? Dans la même lecture par rapport à Luc 14, juste après, il nous est parlé d'un roi qui va en guerre et il calcule le nombre de soldats qu'il lui faut. Parce que si son ennemi a 20 000 soldats, lui, il lui en faut combien pour combattre ? S'asseoir, calculer. Ça, c'est drôlement important. Ne pas partir comme ça à l'aveuglette. Une autre question que l'on peut se poser dans un choix. Est-ce que mon choix est précipité ? Est-ce que mon choix, il est rempli de sagesse ? Ou est-ce qu'il est plutôt bizarre ? Jacques, chapitre 1, verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et juste avant ce petit verset, il nous est dit qu'il faut être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, c'est une décision qui est justement liée aux circonstances, justement liée à une espèce de souci de survie, de bon, bah, faute de mieux, je fais ça. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Une décision précipitée peut avoir de graves conséquences. Vous connaissez Moïse ? Cet homme juif qui a été élevé par Pharaon. Il y a un jour, il a vu un Égyptien se faire maltraiter par le... Enfin, un Égyptien maltraiter un Israélien. Et il a tué le premier. Et lorsqu'il a compris que la chose était connue de Pharaon, la Bible nous dit qu'il décida de partir loin de Pharaon. Ça, c'est ce qui s'appelle une décision de panique. Ça y est, Pharaon sait que j'ai tué un Égyptien. Il va me renier, il va me chercher. Il va probablement me condamner. Je fuis. Ça, c'est vraiment la décision de précipitation. Ça lui a valu quand même 40 ans de formation dans le désert. Mine de rien. Parce que d'un seul coup, il a décidé de partir, il a eu peur. Il a eu peur de la réaction de Pharaon. Et du coup, il est parti vers Madian. Mais ça lui a valu 40 ans de formation dans le désert. Peut-être qu'il aurait pu gagner du temps. Je ne sais pas. Jonas, à qui Dieu dit, tiens, tu vas à Ninive. Alors là, sur un instant de rebelle, non, j'irai pas à Ninive, j'irai ailleurs. Il a perdu du temps, hein, parce qu'il aurait pu sauver les âmes de Ninive un petit peu plus tôt. Alors je ne sais pas combien de temps il a perdu, mais en attendant, il a pris un bateau, il a eu la tempête, il s'est retrouvé dans un poisson, il a été rejeté à terre, il a perdu un certain temps, parce qu'il a pris une décision, je dirais, de colère, de rebelle, et il n'a pas voulu faire le choix de Dieu. Ça, ce sont deux exemples de décisions prises un peu dans la panique, prises un petit peu, bah, faute de mieux, je fais ça, mais est-ce que c'est la bonne décision ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont perdu du temps. Autre question que je pourrais me poser quand je fais un choix. Est-ce le temps de Dieu ? Ah ! Est-ce le temps de Dieu ? La Ecclésias chapitre 3 verset 1 nous dit « Il y a un temps pour tout ». Et en dessous découle tout un chat de choses, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, etc. etc. Donc il y a un temps pour tout. Et la décision que je prends aujourd'hui, il est important de se poser la question, mais est-ce que ma décision elle correspond au temps de Dieu ? Oui, Dieu veut que je fasse ça, c'est vrai. J'ai reçu la prophétie, j'ai reçu la parole de Dieu, ça s'est confirmé. Mais quand je fais le choix, est-ce le temps de Dieu ? C'est important de se poser cette question. Marie, la mère de Jésus, savait qu'il était appelé. Et un jour, dans un mariage, mince, il n'y a plus de vin. Et elle dira à Jésus, fais, vas-y, occupe-toi-en. Et là, Jésus, il a une réponse plutôt brutale. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas arrivée. Jésus savait que ce n'était pas le temps pour lui d'intervenir. Il a obéi à sa mère et il a fait le miracle. Mais il savait dans son cœur que ce n'était pas le temps. Son heure n'était pas encore venue. Il fallait qu'il attende encore un petit peu pour pouvoir rentrer dans la pleine vision de Dieu. C'est important lorsque je fais un choix de savoir si le choix que je fais il correspond au temps que Dieu veut. Si ça ne se fait pas dans le temps, eh bien, il faudra certainement attendre. Si ça se fait dans le temps de Dieu, chose étonnante, toutes les portes vont s'ouvrir. Le tapis est mis devant nous et il y a l'autoroute qui s'ouvre carrément. Parce qu'on fait la chose, on prend la décision en étant dans le temps de Dieu. Il faudrait peut-être aussi se poser une dernière question. Elle est importante celle-là, tiens. À mon avis, j'aurais même dû commencer par celle-ci puis oublier tout le reste. Ézéchiel 28, je pense que vous connaissez. C'est un texte prophétique qui est fait sur le prince de Tyr, sur le chérubin protecteur. Pour l'adversaire de notre âme, pour Satan, pour ne pas le nommer. Et au verset 6, il est dit ceci, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. » Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. J'aurais peut-être dû commencer par ça, hein, c'est le plus important. Est-ce que le choix que je fais correspond à la volonté de Dieu ? Est-ce que d'une façon un petit peu bizarre, je ne prends pas la volonté de Dieu pour ma volonté ? Ou inversement, ma volonté pour la volonté de Dieu ? Ah ! Important de se poser cette question, hein. Demain, j'ai envie de faire ça, tel choix. Est-ce que c'est ta volonté ? Qu'est-ce qu'on a chanté, le dernier chant tout à l'heure ? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus nous montre cela. Jésus va bientôt être crucifié. Luc chapitre 22, verset 42. Jésus priait dans le désert, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mon choix doit être au diapason de la volonté de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Dans Acte 16, Paul voulait aller en Asie mineure pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle. Ça, c'était son choix. Et dans la nuit, il a eu une vision où un Macédonien lui est apparu en disant « Viens nous secourir ». Et là, il s'est mis à faire la volonté de Dieu. Là, Paul a fait le choix de réserver un bateau qui allait les conduire en Macédonie pour pouvoir être dans le plan de Dieu. Est-ce que mon choix correspond à la volonté de Dieu? Est-ce que je ne confonds pas ma volonté avec la volonté de Dieu? Chaque fois que je prends une décision, je crois qu'il est important de s'asseoir pour en calculer les conséquences. Il est important de savoir si c'est le temps de Dieu. Il est important de savoir si c'est dans la volonté de Dieu. Et si je ne prends pas une décision précipitée. Je vais en arriver à la conclusion. Dans 2 Samuel, versets 11 et 12, il nous est parlé du choix de David. Il était sur sa terrasse, il voit une jolie femme qui s'appelle Bathsheba, et il fait le choix qu'elle deviendrait sa femme. La conséquence, c'est qu'il y a eu l'adultère. Les conséquences, c'est que David est devenu un meurtrier. Les conséquences, c'est que son bras droit militaire est devenu complice d'un meurtre. Les conséquences, c'est qu'un bébé en est mort. Ça, c'est le choix de David. Est-ce qu'il s'est assis? Est-ce qu'il a posé la question? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Je suis en train de relire toute une série de livres de Butler. Donc, c'est un pasteur enseignant qui était responsable dans une école biblique. Et il nous donne cette anecdote comme ça. Il y a un jeune homme qui était persuadé qu'une telle fille allait devenir sa femme. Et il a fait la prière. « Si ça doit devenir ma femme, eh ben fais, Seigneur, que ma grand-mère me donne 10 dollars lundi prochain. » Lundi arrive, il a 10 dollars. Waouh ! Elle va devenir ma femme. C'est formidable. Il a juste oublié un détail, c'est que tous les lundis, sa grand-mère lui donnait 10 dollars. Où est la volonté de Dieu? Où est la volonté humaine? Faut être prudent. A contrario, par rapport à David, il y a une petite anecdote dans Luc, chapitre 10, verset 42. Il y a deux sœurs qui sont dans la maison pour accueillir Jésus. Il y en a une qui bosse, qui passe son temps à la cuisine. Et l'autre qui s'appelle Marie et qui décide de s'asseoir au pied de Jésus. Juste histoire de savoir ce qu'il allait dire, pour mieux comprendre. Et à Marie, il lui est dit, « Marie a choisi la bonne place. » Quand je fais un choix, je pense qu'il est important de s'asseoir et de dire à Dieu, « Père éternel, tu vois le choix que je dois faire. » Qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et à partir du moment où je vais agir comme ça, tous les choix que je vais faire dans ma vie auront des conséquences de bénédiction. Parce que je serai soumis à la volonté de Dieu. Parce que je serai à l'écoute de Dieu. Je m'arrêterai là. Il faut juste qu'on réalise que nos choix sont importants et que nous ne pouvons pas faire les choses à la légère. Demandons systématiquement à Dieu, « Père, que ferais-tu à ma place ?» Soyez bénis, frères et sœurs. Oh mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, Père éternel. Nous réclamons et je réclame ta sagesse pour que les choix de ma vie m'entraînent vers ta bénédiction. Je te prie, Père éternel, d'agir en plus profond de mon être pour que jamais je ne te déçoive dans les choix que j'ai à faire. Merci d'agir, merci de m'éclairer, de me conseiller, de guider mon pas, et que pour que je sois bien guidé, je puisse justement me servir de ta parole comme une lampe à mes pieds, qui éclaire le chemin et qui éclaire chacune de mes décisions. Merci Père, dans le nom de Jésus.